La comtesse de Rudolstadt, épilogue. Si nous avions pu nous procurer sur l'existence d'Albert et de Consuelo, après leur mariage, les documents fidèles et détaillés qui nous ont guidés jusqu'ici, nul doute que nous ne pussions fournir encore une longue carrière en vous racontant leurs voyages et leurs aventures. Mais, ô lecteur persévérant, nous ne pouvons vous satisfaire. Et vous, lecteur fatigué, nous ne vous demandons plus qu'un instant de patience. Ne nous en faites l'un et l'autre ni un reproche ni un mérite. La vérité est que les matériaux à l'aide desquels nous eussions pu, ainsi que nous l'avons fait jusqu'à présent, coordonner les événements de cette histoire, disparaissent en grande partie, pour nous, à partir de la nuit romanesque qui vit bénir et consacrer l'union de nos deux héros, chez les invisibles. Soit que les engagements contractés par eux, dans le temple, les aient empêchés de se confier à l'amitié dans leurs lettres, soit que leurs amis, affiliés eux-mêmes au mystère, aient, dans des temps de persécution, jugé prudent d'anéantir leur correspondance. Nous ne les apercevons plus qu'à travers un nuage, sous le voile du temple ou sous le masque des adeptes. Si nous nous en rapportions, sans examen, aux rares traces de leur existence qui nous apparaissent dans notre provision de manuscrits, nous nous égarerions souvent à les poursuivre. Car des preuves contradictoires nous les montrent tous deux sur plusieurs points géographiques à la fois, ou suivant certaines directions diverses dans le même temps. Mais nous devinons aisément qu'ils donnèrent volontairement lieu à ces méprises, étant tantôt voués à quelque entreprise secrète dirigée par les invisibles, et tantôt forcés de se soustraire, à travers mille périls, à la police inquisitoriale des gouvernements. Ce que nous pouvons affirmer sur l'existence de cette âme en deux personnes qui s'appela Consuelo et Albert, c'est que leur amour tint ses promesses, mais que la destinée démentit cruellement celle qu'elle avait semblé leur faire durant ces heures d'ivresse qu'ils appelaient leur songe d'une nuit d'été. Cependant, ils ne furent point ingrats envers la Providence qui leur avait donné ce rapide bonheur dans toute sa plénitude et qui, au milieu de leurs revers, continua en eux le miracle de l'amour annoncé par Wanda. Au sein de la misère, de la souffrance et de la persécution, ils se reportèrent toujours à ce doux souvenir qui marqua dans leur vie comme une vision céleste, comme un bail fait avec la divinité pour la jouissance d'une vie meilleure, après une phase de travaux, d'épreuves et de sacrifices. Tout devient d'ailleurs tellement mystérieux pour nous dans cette histoire que nous n'avons pas seulement pu découvrir dans quelle partie de l'Allemagne était située cette résidence enchantée, où, protégé par le tumulte des chasses et des fêtes, un prince, anonyme dans nos documents, servit de point de ralliement et de moteur principal à la conspiration sociale et philosophique des invisibles. Ce prince avait reçu d'eux un nom symbolique, qu'après mille peines pour deviner le chiffre dont se servaient les adeptes, nous présumons être celui de Christophore, porte-Christ, ou peut-être bien Chrysostome, bouche d'or. Le temple où Consuelo fut marié et initié, il l'appelait poétiquement le Saint Graal, et les chefs du tribunal, les templistes. Emblème romanesque, renouvelé des antiques légendes de l'âge d'or de la chevalerie. Tout le monde sait que, d'après ces riantes fictions, le Saint Graal était caché dans un sanctuaire mystérieux au fond d'une grotte inconnue aux mortels. C'était là que les templistes, illustres saints du christianisme primitif, voués dès ce monde à l'immortalité, gardaient la coupe précieuse dont Jésus s'était servi pour consacrer le miracle de l'Eucharistie, en faisant la Pâque avec ses disciples. Cette coupe contenait sans doute la grâce céleste, figurée tantôt par le sang, tantôt par les larmes du Christ, une liqueur divine. Enfin, une substance eucharistique, sur la nature mystique de laquelle on ne s'expliquait pas, mais qu'il suffisait de voir pour être transformé au moral et au physique, pour être à jamais à l'abri de la mort et du péché. Les vieux paladins, qui, après des vœux formidables, des macérations terribles et des exploits à faire trembler la terre, se vouaient à la vie ascétique du chevalier errant, avaient pour idéal de trouver le Saint Graal au bout de leur pérégrination. Ils le cherchaient sous les glaces du Nord, sur les grèves de l'Armorique, au fond des forêts de la Germanie. Il fallait, pour réaliser cette sublime conquête, affronter des périls analogues à ceux du jardin des Hespérides, vaincre les monstres, les éléments, les peuples barbares, la faim, la soif, la mort même. Quelques-uns de ces argonautes chrétiens découvrirent, dit-on, le sanctuaire et furent régénérés par la divine coupe. Mais ils ne trahirent jamais ce secret terrible. On connut leur triomphe à la force de leurs bras, à la sainteté de leur vie, à leurs armes invincibles, à la transfiguration de tout leur être. Mais ils survécurent peu parmi nous à une si glorieuse initiation. Ils disparurent d'entre les hommes, comme Jésus après sa résurrection, et passèrent de la terre au ciel sans subir l'amère transition de la mort. Tel était le magique symbole qui s'adaptait en réalité fort bien à l'œuvre des invisibles. Durant plusieurs années, les nouveaux templistes conservèrent l'espoir de rendre le Saint Graal accessible à tous les hommes. Albert travailla efficacement, sans aucun doute, à répandre les idées mères de la doctrine. Il parvint aux grades les plus avancés de l'ordre, car nous trouvons quelque part la liste de ses titres, ce qui prouverait qu'il eut le temps de les conquérir. Or, chacun sait qu'il fallait 81 mois pour s'élever seulement aux 33 degrés de la maçonnerie, et nous croyons être certains qu'il en fallait ensuite beaucoup davantage pour franchir le nombre illimité des degrés mystérieux du Saint Graal. Les noms des grades maçonniques ne sont plus un mystère pour personne, mais on ne nous saura peut-être pas mauvais gré d'en rappeler ici quelques-uns, car ils peignent assez bien le génie enthousiaste et la riante imagination qui présidèrent à leurs créations successives. Apprenti, compagnon et maître maçon, maître secret et maître parfait, secrétaire, prévôt et juge, maître anglais et maître irlandais, maître en Israël, maître élu des 9 et des 15, élu de l'inconnu, sublime chevalier élu, grand maître architecte, royal arche, grand écossais de la loge sacrée ou sublime maçon, chevalier de l'épée, chevalier d'Orient, prince de Jérusalem, chevalier d'Orient et d'Occident, rose-croix de France, des Raidons et de Kilwinning, grand pontife ou sublime écossais, architecte de la voûte sacrée, pontife de la Jérusalem céleste, souverain prince de la maçonnerie ou maître ad vitam, noachite, prince du Liban, chef du tabernacle, chevalier du serpent d'airain, écossais trinitaire ou prince de Merci, grand commandeur du temple, chevalier du soleil, patriarche des croisades, grand maître de la lumière, chevalier kadosh, chevalier de l'aigle blanc et de l'aigle noir, chevalier du phénix, chevalier de l'iris, chevalier des argonautes, chevalier de la toison d'or, grand inspecteur inquisiteur commandeur, sublime prince du royal secret, sublime maître de l'anneau lumineux, etc., etc. À ces titres, ou du moins à la plupart d'entre eux, nous trouvons des titres moins connus accolés au nom d'Albert Podiebrade, dans un chiffre moins lisible que celui des francs-maçons, tels que chevalier de Saint-Jean, sublime Johannite, maître du nouvel Apocalypse, docteur de l'Évangile éternel, élu de l'Esprit-Saint, templiste, aréopagite, mage, homme-peuple, homme-pontife, homme-roi, homme-nouveau, etc. Nous avons été surpris de voir ici quelques titres qui sembleraient empruntés par anticipation à l'illuminisme de Weishaupt. Mais cette particularité nous a été expliquée plus tard et n'aura pas besoin de commentaires pour nos lecteurs à la fin de cette histoire. À travers le labyrinthe de faits obscurs, mais profonds, qui se rattachent aux travaux, au succès, à la dispersion et à l'extinction apparente des invisibles, nous avons bien de la peine à suivre de loin l'étoile aventureuse de notre jeune couple. Cependant, en suppléant par un commentaire prudent à ce qui nous manque, voici à peu près l'historique abrégé des principaux événements de leur vie. L'imagination du lecteur aidera à la lettre. Et pour notre compte, nous ne doutons pas que les meilleurs dénouements ne soient ceux dont le lecteur veut bien se charger pour son compte, à la place du narrateur. Il est probable que ce fut en quittant le Saint Graal que Consuelo se rendit à la petite cour de Barreit, où la margrave, sœur de Frédéric, avait des palais, des jardins, des kiosques et des cascades, dans le goût de ceux du comte Auditz à Roswald, quoique moins somptueux et moins dispendieux. Car cette spirituelle princesse avait été mariée sans dot à un très pauvre prince, et il n'y avait pas longtemps qu'elle avait des robes dont la queue fut raisonnable, et des pages dont le pourpoint ne montra pas la corde. Ses jardins, ou plutôt son jardin, pour parler sans métaphore, était situé dans un paysage admirable, et elle s'y donnait le plaisir d'un opéra italien, dans un temple antique, d'un goût un peu pompadour. La margrave était très philosophe, c'est-à-dire voltairienne. Le jeune margrave héréditaire, son époux, était chef zélé d'une loge maçonnique. J'ignore si Albert fut en relation avec lui, et si son incognito fut protégé par le secret des frères, ou bien s'il se tint éloigné de cette cour pour rejoindre sa femme un peu plus tard. Sans doute, Consuelo avait là quelques missions secrètes. Peut-être aussi, pour éviter d'attirer sur son époux l'attention qui se fixait en tout lieu sur elle, elle ne vécut pas publiquement auprès de lui dans les premiers temps. Leurs amours eurent sans doute alors tout l'attrait du mystère. Et si la publicité de leur union, consacrée par la sanction fraternelle des templistes, leur avait paru douce et vivifiante, le secret dont ils s'entourèrent dans un monde hypocrite et licencieux fut pour eux, dans les commencements, une égide nécessaire et une sorte de muette protestation où ils puisèrent leur enthousiasme et leur force. Plusieurs chanteuses et chanteurs italiens firent à cette époque les délices de la petite cour de Barreit. La Corilla et Anzoletto y parurent, et l'inconséquente prima donna s'enflamma de nouveaux feux pour le traître qu'elle avait voué naguère à toutes les furies de l'enfer. Mais Anzoletto, en cajolant la tigresse, s'efforça prudemment et avec une mystérieuse réserve de trouver grâce auprès de Consuelo, dont le talent grandi par tant de secrètes et profondes révélations éclipsait toutes les rivalités. L'ambition était devenue la passion dominante du jeune ténor. L'amour avait été étouffé sous le dépit, la volupté même sous la satiété. Il n'aimait donc ni la chaste Consuelo, ni la fougueuse Corilla. Mais il ménageait l'une et l'autre, tout prêt à se rattacher en apparence à celle des deux qui le prendraient à sa suite et l'aideraient à se faire avantageusement connaître. Consuelo lui témoigna une paisible amitié et ne lui épargna pas les bons conseils et les consciencieuses leçons qui pouvaient donner l'essor à son talent. Mais elle ne sentit plus auprès de lui aucun trouble et la mansuétude de son pardon lui révéla à elle-même l'absolue consommation de son détachement. Anzoletto ne s'y méprit pas. Après avoir écouté avec fruit les enseignements de l'artiste, et fin d'entendre avec émotion les conseils de l'ami, il perdit la patience en perdant l'espoir, et sa profonde rancune, son amer dépit, percèrent malgré lui dans son maintien et dans ses paroles. Sur ces entrefaites, il paraît que la jeune baronne Amélie de Rudolfstadt arriva à la cour de Barreit avec la princesse de Kulmbach, fille de la comtesse Auditz. S'il faut en croire quelques témoins indiscrets ou exagérateurs, de petits drames assez bizarres se passèrent alors entre ces quatre personnes, Consuelo, Amélie, Corilla et Anzoletto. En voyant paraître à l'improviste le beau ténor sur les planches de l'opéra de Barreit, la jeune baronne s'évanouit. Personne ne s'avisa de remarquer la coïncidence, mais le regard de lynx de la corilla avait saisi sur le front du ténor un rayonnement particulier de vanité satisfaite. Il avait manqué son passage des fées. La cour, distraite par la pâmoison de la jeune baronne, n'avait pas encouragé le chanteur, et au lieu de maugréer entre ses dents, comme il faisait toujours en pareil cas, il avait sur les lèvres un sourire de triomphe non équivoque. « Tiens !» dit la corilla d'une voix étouffée à Consuelo en rentrant dans la coulisse. « Ce n'est ni toi ni moi qui l'aime. C'est cette petite sotte qui vient de faire une scène pour lui. La connais-tu ? Qui est-elle ?»« Je ne sais, » répondit Consuelo qui n'avait rien remarqué. « Mais je puis t'assurer que ce n'est ni elle, ni toi, ni moi qui l'occupons. »« Qui donc, en ce cas ?»« Lui-même, al solito, » reprit Consuelo en souriant. La chronique ajoute que le lendemain matin, Consuelo fut demandé dans un bosquet retiré de la résidence pour s'entretenir avec la baronne Amélie à peu près ainsi qu'il suit. « Je sais tout !» aurait dit cette dernière d'un air irrité avant de permettre à Consuelo d'ouvrir la bouche. « C'est vous qui l'aime ! C'est vous, malheureuse, fléau de ma vie, qui m'avez enlevé le cœur d'Albert et le sien !»«
Le sien, madame ? J'ignore !»
« Ne feignez pas, Anzoletto vous aime, vous êtes sa maîtresse, vous l'avez été à Venise, vous l'êtes encore. »
« C'est une infâme calomnie, ou une supposition indigne de vous, madame. »«
C'est la vérité, vous dis-je, il me l'a avoué cette nuit. »«
Cette nuit ? Oh, madame, que m'apprenez-vous ? »
s'écria Consuelo en rougissant de honte et de chagrin. Amélie fondit en larmes. Et quand la bonne Consuelo eut réussi à calmer sa jalousie, elle obtint malgré elle la confidence de cette malheureuse passion. Amélie avait vu Anzoletto chanter sur le théâtre de Prague. Elle avait été enivrée de sa beauté et de ses succès. Ne comprenant rien à la musique, elle l'avait pris sans hésitation pour le premier chanteur du monde, d'autant plus qu'à Prague, il avait eu un succès de vogue. Elle l'avait mandé auprès d'elle comme maître de chant, et pendant que son pauvre père, le vieux baron Frédéric, paralysé par l'inaction, dormait dans son fauteuil tout en rêvant de meutes en fureur et de sangliers aux abois, elle avait succombé à la séduction. L'ennui et la vanité l'avaient poussée à sa perte. Anzoletto, flatté de cette illustre conquête et voulant se mettre à la mode par un scandale, lui avait persuadé qu'elle avait de l'étoffe pour devenir la plus grande cantatrice de son siècle, que la vie d'artiste était un paradis sur la terre et qu'elle n'avait rien de mieux à faire que de s'enfuir avec lui pour aller débuter au théâtre de Haymarket dans les opéras de Handel. Amélie avait d'abord rejeté avec horreur l'idée d'abandonner son vieux père. Mais au moment où Anzoletto quittait Prague, feignant un désespoir qu'il n'éprouvait pas, elle avait cédé à une sorte de vertige, elle avait fui avec lui. Son enivrement n'avait pas été de longue durée. L'insolence d'Anzoletto et la grossièreté de ses mœurs, quand il ne jouait plus le personnage de séducteur, l'avaient fait rentrer en elle-même. C'était donc avec une sorte de joie que, 3 mois après son évasion, elle avait été arrêtée à Hambourg et ramenée en Prusse, où, sur la demande des Rudolfstadt de Saxe, elle avait été incarcérée mystérieusement à Spandau. Mais la pénitence avait été trop longue et trop sévère. Amélie s'était dégoûtée du repentir aussi vite que de la passion. Elle avait soupiré après la liberté, les aises de la vie et la considération de son rang, dont elle avait été si brusquement et si cruellement privée. Au milieu de ses souffrances personnelles, elle avait à peine senti la douleur de perdre son père. En apprenant qu'elle était libre, elle avait enfin compris tous les malheurs qui avaient frappé sa famille. Mais n'osant retourner auprès de la chanoinesse, et craignant l'ennui amer d'une vie de réprimandes et de sermons, elle avait imploré la protection de la margrave de Barrett. Et la princesse de Kulmbach, alors à Dresde, s'était chargée de la conduire auprès de sa parente. Dans cette cour, philosophique et frivole, elle trouvait l'aimable tolérance dont les vices à la mode faisaient alors l'unique vertu de l'avenir. Mais en revoyant Anzoletto, elle subissait déjà le diabolique ascendant qu'il savait exercer sur les femmes, et contre lequel la chaste Consuelo elle-même avait eu tant de luttes à soutenir. L'effroi et le chagrin l'avaient d'abord frappé au cœur. Mais, après son évanouissement, étant sortie seule la nuit dans les jardins pour prendre l'air, elle l'avait rencontré, enhardi par son émotion et l'imagination irritée par les obstacles survenus entre eux. Maintenant, elle l'aimait encore, elle en rougissait, elle en était effrayée, et elle confessait ses fautes à son ancienne maîtresse de chant, avec un mélange de pudeur féminine et de cynisme philosophique. Il paraît certain que Consuelo sut trouver le chemin de son cœur par de chaleureuses exhortations, et qu'elle la décida à retourner au château des géants pour y éteindre dans la retraite sa dangereuse passion et soigner les vieux jours de sa tante. Après cette aventure, le séjour de Barreit ne fut plus supportable pour Consuelo. L'orageuse jalousie de la Corilla, qui, toujours folle et toujours bonne au fond, l'accusait avec grossièreté et se jetait à ses pieds l'instant d'après, la fatigua singulièrement. De son côté, Anzoletto, qui s'était imaginé pouvoir se venger de ses dédains en jouant à la passion avec Amélie, ne lui pardonna pas d'avoir soustrait la jeune baronne au danger. Il lui fit mille mauvais tours, comme de lui faire manquer toutes ses entrées sur la scène, de prendre sa partie au milieu d'un duo pour la dérouter, et par son propre aplomb donner à croire au public ignorant que c'était elle qui se trompait. Si elle avait un jeu de scène avec lui, il allait à droite au lieu d'aller à gauche, essayait de la faire tomber ou la forçait de s'embrouiller parmi les comparses. Ces méchantes espiègleries échouèrent devant le calme et la présence d'esprit de Consuelo. Mais elle fut moins stoïque lorsqu'elle s'aperçut qu'il répandait les plus indignes calomnies contre elle, et qu'il était écouté par ces grands seigneurs désœuvrés, aux yeux desquels une actrice vertueuse était un phénomène impossible à admettre, ou tout au moins fatigant à respecter. Elle vit des libertins de tout âge et de tout rang s'enhardir auprès d'elle, et, refusant de croire à la sincérité de sa résistance, se joindre à Anzoletto pour la diffamer et la déshonorer, dans un sentiment de vengeance lâche et de dépit féroce. Ces cruelles et misérables persécutions furent le commencement d'un long martyre que subit héroïquement l'infortunée prima donna durant toute sa carrière théâtrale. Toutes les fois qu'elle rencontra Anzoletto, il lui suscita mille chagrins, et il est triste de dire qu'elle rencontra plus d'un Anzoletto dans sa vie. D'autres Corilla la tourmentèrent de leur envie et de leur malveillance, plus ou moins perfide ou brutale. Et de toutes ses rivales, la première fut encore la moins méchante et la plus capable d'un bon mouvement de cœur. Mais quoi qu'on puisse dire de la méchanceté et de la jalouse vanité des femmes de théâtre, Consuelo éprouva que quand leur vice entrait dans le cœur d'un homme, il le dégradait encore davantage et le rendait plus indigne de son rôle dans l'humanité. Les seigneurs arrogants et débauchés, les directeurs de théâtre et les gazetiers, dépravés aussi par le contact de tant de souillures, les belles dames, protectrices curieuses et fantasques, promptes à s'imposer, mais irritées bientôt de rencontrer chez une fille de cette espèce plus de vertu qu'elle n'en avait et n'en voulait avoir. Enfin, le public, souvent ignare, presque toujours ingrat ou partial. Ce furent là autant d'ennemis contre lesquels l'épouse austère de Liverani eut à se débattre dans d'incessantes amertumes. Persévérante et fidèle, dans l'art comme dans l'amour, elle ne se rebuta jamais et poursuivit sa carrière, grandissant toujours dans la science de la musique comme dans la pratique de la vertu, échouant souvent dans l'épineuse poursuite du succès, se relevant souvent aussi par de justes triomphes, restant malgré tout la prêtresse de l'art, mieux que ne l'entendait le Porpora lui-même, et puisant toujours de nouvelles forces dans sa foi religieuse, d'immenses consolations dans l'amour ardent et dévoué de son époux. La vie de cet époux, quoique marchant parallèlement à la sienne, car il l'accompagna dans tous ses voyages, est enveloppée de nuages plus épais. il est à présumer qu'il ne se fit pas l'esclave de la fortune de sa femme et qu'il ne s'adonna point au rôle de teneur de livres pour les recettes et les dépenses de sa profession. La profession de Consuelo lui fut d'ailleurs assez peu lucrative. Le public ne rétribuait pas alors les artistes avec la prodigieuse munificence qui distingue celui de notre temps. Les artistes s'enrichissaient principalement des dons des princes et des grands, et les femmes, qui savaient tirer parti de leur position, acquéraient déjà des trésors. Mais la chasteté et le désintéressement sont les plus grands ennemis de la fortune d'une femme de théâtre. Consuelo eut beaucoup de succès d'estime, quelques-uns d'enthousiasme, quand par hasard la perversité de son entourage ne s'interposa pas trop entre elle et le vrai public. Mais elle n'eut aucun succès de galanterie, et l'infamie ne la couronna point de diamants et de millions. Ses lauriers demeurèrent sans tache et ne lui furent pas jetés sur la scène par des mains intéressées. Après 10 ans de travail et de course, elle n'était pas plus riche qu'à son point de départ. Elle n'avait pas su spéculer, et de plus, elle ne l'avait pas voulu. 2 conditions moyennant lesquelles la richesse ne vient chercher malgré eux les travailleurs d'aucune classe. En outre, elle n'avait point mis en réserve le fruit souvent contesté de ses peines. Elle l'avait constamment employé en bonnes œuvres. Et, dans une vie consacrée secrètement à une active propagande, ses ressources mêmes n'avaient pas toujours suffi. Le gouvernement central des invisibles y avait quelquefois pourvu. Quel fut le succès réel de l'ardent et infatigable pèlerinage qu'Albert et Consuelo poursuivirent à travers la France, l'Espagne, l'Angleterre et l'Italie? Il n'y en eut point de manifeste pour le monde, et je crois qu'il faut se reporter à 20 ans plus tard pour retrouver, par induction, l'action des sociétés secrètes dans l'histoire du XVIIIe siècle. Ces sociétés eurent-elles plus d'effet en France que dans le sein de l'Allemagne qui les avait enfantées? La Révolution française répond avec énergie par l'affirmative. Cependant, la conspiration européenne de l'illuminisme et les gigantesques conceptions de Wauchope montrent aussi que le divin rêve du Saint Graal n'avait pas cessé d'agiter les imaginations allemandes depuis 30 années, malgré la dispersion ou la défection des premiers adeptes. D'anciennes gazettes nous apprennent que la Porporina chanta avec un grand éclat à Paris dans les opéras de Pergolèse, à Londres dans les oratorios et les opéras de Handel, à Madrid avec Farinelli, à Dresde avec la Faustina et la Mingotti, à Venise, à Rome et à Naples, dans les opéras et la musique d'église du Porpora et des autres grands maîtres. Toutes les démarches d'Albert nous sont inconnues. Quelques billets de Consuelo à Trinque ou à Vanda nous montrent ce mystérieux personnage plein de foi, de confiance, d'activité, et jouissant, plus qu'aucun autre homme, de la lucidité de ses pensées jusqu'à une époque où les documents certains nous manquent absolument. Voici ce qui a été raconté dans un certain groupe de personnes à peu près toutes mortes aujourd'hui sur la dernière apparition de Consuelo à la scène. Ce fut à Vienne, vers 1760. La cantatrice pouvait avoir environ 30 ans. Elle était, dit-on, plus belle que dans sa première jeunesse. Une vie pure, des habitudes de calme moral et de sobriété physique, l'avait conservée dans toute la puissance de sa grâce et de son talent. De beaux enfants l'accompagnaient, mais on ne connaissait pas son mari, bien que la renommée publiât qu'elle en avait un, et qu'elle lui avait été irrévocablement fidèle. Le Porpora, après avoir fait plusieurs voyages en Italie, était revenu à Vienne et faisait représenter un nouvel opéra au Théâtre Impérial. Les 20 dernières années de ce maître sont tellement ignorées que nous n'avons pu trouver dans aucune de ses biographies le nom de ce dernier œuvre. Nous savons seulement que la Porporina y remplit le rôle principal avec un succès incontestable et qu'elle arracha des larmes à toute la cour. L'impératrice daigna être satisfaite. Mais dans la nuit qui suivit ce triomphe, la Porporina reçut, de quelques messagers invisibles, une nouvelle qui lui apporta l'épouvante et la consternation. dès 7 heures du matin, c'est-à-dire au moment où l'impératrice était avertie par le fidèle valet qu'on appelait le frotteur de sa majesté, vu que ses fonctions consistaient effectivement à ouvrir les persiennes, à faire le feu et à frotter la chambre, tandis que sa majesté s'éveillait peu à peu. La Porporine, ayant gagné à prix d'or et à force d'éloquence tous les gardiens des avenues sacrées, se présenta derrière la porte même de l'auguste chambre à coucher. « Mon ami, dit-elle au frotteur, il faut que je me jette aux pieds de l'impératrice. La vie d'un honnête homme est en danger, l'honneur d'une famille est compromis. Un grand crime sera peut-être consommé dans quelques jours, si je ne vois sa majesté à l'instant même. Je sais que vous êtes incorruptible, mais je sais aussi que vous êtes un homme généreux et magnanime. Tout le monde le dit. Vous avez obtenu bien des grâces que les courtisans les plus fiers n'eussent pas osé solliciter. Bonté du ciel, est-ce vous que je revois enfin, oh ma chère maîtresse ? S'écria le frotteur, en joignant les mains et en laissant tomber son plumeau. Carl ! S'écria à son tour Consuelo. Oh merci mon Dieu, je suis sauvée. Albert a un bon ange jusque dans ce palais. Albert ? Albert ? Reprit Carl. Est-ce lui qui est en danger, mon Dieu ? En ce cas, entrez vite, signora, dussé-je être chassée. Et Dieu sait que je regretterai ma place, car j'y fais quelque bien, et j'y sers notre sainte cause mieux que je n'ai encore pu le faire ailleurs. Mais Albert, tenez, l'impératrice est une bonne femme quand elle ne gouverne pas, ajouta-t-il à voix basse. Entrez, vous serez censé m'avoir précédé. Que la faute retombe sur ces coquins de valets qui ne méritent pas de servir une reine, car ils ne lui disent que des mensonges. Consuelo entra, et l'impératrice, en ouvrant ses yeux appesantis, la vit à genoux et comme prosternée au pied de son lit. « Qu'est-ce là ? » s'écria Marie-Thérèse en drapant son couvre-pied sur ses épaules avec une majesté d'habitude qui n'avait plus rien de joué, et en se soulevant, aussi superbe, aussi redoutable en cornette de nuit et sur son chevet, que si elle eût été assise sur son trône, le diadème en tête et l'épée au flanc. « Madame, répondit Consuelo, c'est une humble sujette, une mère infortunée, une épouse au désespoir, qui à genoux vous demande la vie et la liberté de son mari. » En ce moment, Carl entra, feignant une grande surprise. « Malheureuse ! » s'écria-t-il en jouant l'épouvante et la fureur. « Qui vous a permis d'entrer ici ?»« Je te fais mon compliment, Carl, » dit l'impératrice, « de ta vigilance et de ta fidélité. Jamais pareille chose ne m'est arrivée de ma vie, d'être ainsi réveillé en sursaut avec cette insolence. »« Que votre majesté dise un mot, » reprit Carl avec audace, « et je tue cette femme sous ses yeux. » Carl connaissait fort bien l'impératrice. Il savait qu'elle aimait à faire des actes de miséricorde devant témoins, et qu'elle savait être grande reine et grande femme, même devant ses valets de chambre. « C'est trop de zèle, » répondit-elle avec un sourire majestueux et maternel en même temps. « Va-t'en, et laisse parler cette pauvre femme qui pleure. Je ne suis en danger avec aucun de mes sujets. Que voulez-vous, madame ?»«
Eh mais, c'est toi, ma belle Porporine ? Tu vas te gâter la voix à sangloter de la sorte.
Madame, répondit Consuelo, je suis mariée devant l'Église catholique depuis 10 ans. Je n'ai pas une seule faute contre l'honneur à me reprocher. J'ai des enfants légitimes et je les élève dans la vertu. J'ose donc.
Dans la vertu, je le sais, dit l'impératrice, mais non dans la religion.
Vous êtes sage, on me l'a dit, mais vous n'allez jamais à l'Église. Cependant, parlez. Quel malheur vous a frappé !
Mon époux, dont je ne m'étais jamais séparée, reprit la suppliante, est actuellement à Prague, et j'ignore par quelle infâme machination il vient d'être arrêté, jeté dans un cachot, accusé de vouloir prendre un nom et un titre qui ne lui appartiennent pas, de vouloir spolier un héritage, d'être enfin un intrigant, un imposteur et un espion, accusé pour ce fait de haute trahison, et condamné à la détention perpétuelle, à la mort peut-être dans ce moment-ci.
À Prague, un imposteur ? Dit l'impératrice avec calme. J'ai une histoire comme cela dans les rapports de ma police secrète. Comment appelez-vous votre mari ? Car vous autres, vous ne portez pas le nom de vos maris.
Il s'appelle Liverani,
C'est cela. Eh bien, mon enfant, je suis désolée de vous savoir mariée à un pareil misérable. Ce Liverani est en effet un chevalier d'industrie, ou un fou, qui, grâce à une ressemblance parfaite, veut se faire passer pour un comte de Rudolfstadt, mort il y a plus de 10 ans, le fait est avéré. Il s'est introduit auprès d'une vieille chanoinesse de Rudolfstadt, dont il ose se dire le neveu, et dont à coup sûr il eût capté l'héritage, si, au moment de faire son testament en sa faveur, la pauvre dame, tombée en enfance, n'eût été délivrée de son obsession par des gens de bien dévoués à sa famille. On l'a arrêtée et on a fort bien fait. Je conçois votre chagrin, mais je n'y puis porter remède. On instruit le procès. S'il est reconnu que cet homme, comme je voudrais le croire, est aliéné, on le placera dans un hôpital où vous pourrez le voir et le soigner. Mais s'il n'est qu'un escamoteur, comme je le crains, il faudra bien le détenir un peu plus sévèrement pour l'empêcher de troubler la possession de la véritable héritière des Rudolfstadt, une baronne Amélie, je crois, qui, après quelques travers de jeunesse, est sur le point de se marier avec un de mes officiers. J'aime à me persuader, mademoiselle, que vous ignorez la conduite de votre mari et que vous vous faites illusion sur son caractère. Autrement, je trouverais vos instances très déplacées. Mais je vous plains trop pour vouloir vous humilier. Vous pouvez vous retirer. Consuelo vit qu'elle n'avait rien à espérer, et qu'en essayant de faire constater l'identité de Liverani et d'Albert de Rudolfstadt, elle rendait sa cause de plus en plus mauvaise. Elle se releva et marcha vers la porte, pâle et prête à s'évanouir. Marie-Thérèse, qui la suivait d'un œil scrutateur, eut pitié d'elle et, la rappelant, « Vous êtes forte à plaindre, » lui dit-elle d'une voix moins sèche. « Tout cela n'est pas votre faute, j'en suis certaine. Remettez-vous, soignez-vous, l'affaire sera examinée consciencieusement. Et si votre mari ne veut pas se perdre lui-même, je ferai en sorte qu'il soit considéré comme atteint de démence. Si vous pouvez communiquer avec lui, faites-lui entendre cela. Voilà le conseil que j'ai à vous donner. » Je le suivrai, et je bénis votre majesté. Mais sans sa protection, je ne pourrai rien. Mon mari est enfermé à Prague, et je suis engagée au théâtre impérial de Vienne. Si votre majesté ne daigne m'accorder un congé et me délivrer un ordre pour communiquer avec mon mari qui est au secret... Vous demandez beaucoup. J'ignore si monsieur de Konitz voudra vous accorder ce congé, et s'il sera possible de vous remplacer au théâtre. Nous verrons cela dans quelques jours. Dans quelques jours ? S'écria Consuelo en retrouvant son courage. Mais dans quelques jours il ne sera plus temps. Il faut que je parte à l'instant même. C'est assez, dit l'impératrice. Votre insistance vous sera fâcheuse si vous la portez devant des juges moins calmes et moins indulgents que moi. Allez, mademoiselle. Consuelo courut chez le chanoine et lui confia ses enfants en lui annonçant qu'elle partait et qu'elle ignorait la durée de son absence. « Si vous nous quittez pour longtemps, tant pis, » répondit le bon vieillard. « Quant aux enfants, je ne m'en plains pas, ils sont parfaitement élevés, et ils feront société à Angèle, qui s'ennuie bien un peu avec moi. »« Écoutez, » reprit Consuelo, qui ne put retenir ses larmes, après avoir été serrer ses enfants une dernière fois sur son cœur, « ne leur dites pas que mon absence sera longue, mais sachez qu'elle peut être éternelle. » Je vais subir peut-être des douleurs dont je ne me relèverai pas, à moins que Dieu ne fît un miracle en ma faveur. Priez-le pour moi, et faites prier mes enfants. » Le bon chanoine n'essaya pas de lui arracher son secret. Mais comme son âme, paisible et nonchalante, n'admettait pas facilement l'idée d'un malheur sans ressources, il s'efforça de la consoler. Voyant qu'il ne réussissait pas à lui rendre l'espérance, il voulut au moins lui mettre l'esprit en repos sur le sort de ses enfants. « Mon cher Bertone, » lui dit-il avec l'accent du cœur et en s'efforçant de prendre un air enjoué à travers ses larmes, « si tu ne reviens pas, tes enfants m'appartiennent, songes-y, je me charge de leur éducation. Je marierai ta fille, ce qui diminuera un peu la dot d'Angèle et la rendra plus laborieuse. Quant aux garçons, je te préviens que j'en ferai des musiciens. » Joseph Hind partagera ce fardeau, reprit Consuelo en baisant les mains du chanoine. et le vieux Porpora leur donnera bien encore quelques leçons. Mes pauvres enfants sont dociles et annoncent de l'intelligence. Leur existence matérielle ne m'inquiète pas. Ils pourront un jour gagner honnêtement leur vie. Mais mon amour et mes conseils, vous seuls pouvez me remplacer auprès d'eux.
« Et je te le promets !» s'écria le chanoine.
« J'espère bien vivre assez longtemps pour les voir tous établis. Je ne suis pas encore trop gros, j'ai toujours la jambe ferme. Je n'ai pas plus de 60 ans. Quoiqu'autrefois, cette scélérate de Brigitte voulut me vieillir pour m'engager à faire mon testament. Allons, ma fille, courage et santé. Pars et reviens. Le bon Dieu est avec les honnêtes gens. »
Consuelo, sans s'embarrasser de son congé, fit appeler des chevaux de poste à sa voiture. Mais, au moment d'y monter, elle fut retardée par le Porpora, qu'elle n'avait pas voulu voir, prévoyant bien l'orage, et qui s'effrayait de la voir partir. Il craignait, malgré les promesses qu'elle lui faisait d'un air contraint et préoccupé, qu'elle ne fût pas de retour pour l'opéra du lendemain.
« Qui diable songe à aller à la campagne au cœur de l'hiver ?» disait-il avec un tremblement nerveux, moitié de colère et de crainte. « Si tu t'enrhumes, voilà mon succès compromis, et cela allait si bien. Je ne te conçois pas. Nous triomphons hier, et tu voyages aujourd'hui. »
Cette discussion fit perdre un quart d'heure à Consuelo et donna le temps à la direction du théâtre, qui avait déjà l'éveil, de faire avertir l'autorité. Un piquet de houlans vint faire dételer. On pria Consuelo de rentrer et on monta la garde autour de sa maison pour l'empêcher de suivre. La fièvre la prit. Elle ne s'en aperçut pas et continua d'aller et de venir dans son appartement en proie à une sorte d'égarement et ne répondant que par des regards sombres et fixes aux irritantes interpellations du Porpora et du directeur. Elle ne se coucha point et passa la nuit en prière. Le matin, elle parut calme et alla à la répétition par ordre. Sa voix n'avait jamais été plus belle, mais elle avait des distractions qui terrifiaient le Porpora. « Oh, maudit mariage ! Oh, infernale folie d'amour » murmurait-il dans l'orchestre en frappant sur son clavecin de façon à le briser. Le vieux Porpora était toujours le même. Il eût dit volontiers « Périssent tous les amants et tous les maris de la terre plutôt que mon opéra. » Le soir, Consuelo fit sa toilette comme à l'ordinaire et se présenta sur la scène. Elle se posa et ses lèvres articulèrent un mot. Mais pas un son ne sortit de sa poitrine. Elle avait perdu la voix. Le public stupéfait se leva en masse. Les courtisans, qui commençaient à savoir vaguement sa tentative de fuite, déclarèrent que c'était un caprice intolérable. Il y eut des cris, des huées, des applaudissements à chaque nouvel effort de la cantatrice. Elle essaya de parler et ne put faire entendre une seule parole. Cependant, elle resta debout et morne, ne songeant pas à la perte de sa voix, ne se sentant pas humiliée par l'indignation de ses tyrans, mais résignée et fière, comme l'innocent condamné à subir un supplice inique et remerciant Dieu de lui envoyer cette infirmité subite qui allait lui permettre de quitter le théâtre et de rejoindre Albert. Il fut proposé à l'impératrice de mettre l'artiste récalcitrante en prison pour lui faire retrouver la voix et la bonne volonté. Sa Majesté avait eu un instant de colère et on croyait lui faire la cour en accablant l'accusé. Mais Marie-Thérèse, qui permettait quelquefois les crimes dont elle profitait, n'aimait point à faire souffrir sans nécessité. « Konitz, dit-elle à son premier ministre, « faites délivrer à cette pauvre créature un permis de départ, et qu'il n'en soit plus question. Si son extinction de voix est une ruse de guerre, c'est du moins un acte de vertu. Peu d'actrices sacrifieraient une heure de succès à une vie d'amour conjugal. » Consuelo, muni de tous les pouvoirs nécessaires, partit enfin, toujours malade, mais ne le sentant pas. Ici, nous perdons encore le fil des événements. Le procès d'Albert eût pu être une cause célèbre, on en fit une cause secrète. Il est probable que ce fut un procès analogue, quant au fond, à celui que, vers la même époque, Frédéric de Trinques entama, soutint et perdit après bien des années de lutte.
Qui connaîtrait aujourd'hui, en France, les détails de cette inique affaire, si Trinque lui-même n'eût pris soin de les publier et de répéter ses plaintes chaleureuses durant 30 ans de sa vie? Mais Albert ne laissa point d'écrit. Nous allons donc être forcés de nous reporter à l'histoire du baron de Trinque, puisqu'aussi bien il est un de nos héros, et peut-être ses embarras jetteront-ils quelques lumières sur les malheurs d'Albert et de Consuelo. Un mois à peine après la réunion du Saint Graal, circonstance sur laquelle Trinque a gardé le plus profond secret dans ses mémoires, il avait été repris et enfermé à Magdebourg, où il consuma les 10 plus belles années de sa jeunesse, dans un cachot affreux, assis sur une pierre qui portait son épitaphe anticipé « C.J. Trinque » et chargé de 80 livres de fer. Tout le monde connaît cette célèbre infortune, les circonstances odieuses qui l'accompagnèrent, telles que les angoisses de la faim qu'on lui fit subir pendant 18 mois, et le soin de faire bâtir une prison pour lui aux frais de sa sœur, pour punir celle-ci, en la ruinant, de lui avoir donné asile. Ses miraculeuses tentatives d'évasion, l'incroyable énergie qui ne l'abandonna jamais et que déjouèrent ses imprudences chevaleresques, ses travaux d'art dans la prison, les merveilleuses ciselures qu'il vint à bout de faire avec une pointe de clou sur des gobelets d'étain, et dont les sujets allégoriques et les devises en vers sont si profondes et si touchantes. Enfin, ses relations secrètes, en dépit de tout, avec la princesse Amélie de Prusse. Le désespoir où celle-ci se consuma, le soin qu'elle prit de s'enlaidir avec une liqueur corrosive qui lui fit presque perdre la vue, l'état déplorable où elle réduisit volontairement sa propre santé afin d'échapper à la nécessité du mariage, la révolution affreuse qui s'opéra dans son caractère, enfin ces 10 années de désolation qui firent de Trinque un martyr et de son illustre amante une femme vieille, laide et méchante, au lieu d'un ange de douceur et de beauté qu'elle avait été naguère et qu'elle eût pu continuer d'être dans le bonheur. Tout cela est historique, mais on ne s'en est pas assez souvenu quand on a tracé le portrait de Frédéric le Grand. Ce crime, accompagné de cruautés gratuites et raffinées, est une tâche ineffaçable à la mémoire du despote philosophe. Enfin, Trinque fut mis en liberté, comme l'on sait, grâce à l'intervention de Marie-Thérèse, qui le réclama comme son sujet. Et cette protection tardive lui fut acquise enfin par les soins du frotteur de la chambre de Sa Majesté, le même que notre Karl. Il y a sur les ingénieuses intrigues de ce magnanime plébéien auprès de sa souveraine des pages bien curieuses et bien attendrissantes dans les mémoires du temps. Pendant les premières années de la captivité de Trinque, son cousin, le fameux Pandour, victime d'accusations plus méritées, mais non moins haineuses et cruelles, était mort empoisonné au Spielberg. À peine libre, Trinque le Prussien vint à Vienne réclamer l'immense succession de Trinque l'Autrichien. Mais Marie-Thérèse n'était point du tout d'avis de la lui rendre. Elle avait profité des exploits du Pandour, elle l'avait puni de ses violences, elle voulait profiter de ses rapines, et elle en profita, en effet. Comme Frédéric II, comme toutes les grandes intelligences couronnées, tandis que la puissance de son rôle éblouissait les masses, elle ne se faisait pas faute de ces secrètes iniquités dont Dieu et les hommes demanderont compte au jour du jugement, et qui pèseront autant dans un plateau de la balance que les vertus officielles dans l'autre. Conquérants et souverains, c'est en vain que vous employez vos trésors à bâtir des temples. Vous n'en êtes pas moins des impies, quand une seule pièce de cet or est le prix du sang et de la souffrance. C'est en vain que vous soumettez des races entières par l'éclat de vos armes. Les hommes les plus aveuglés par le prestige de la gloire vous reprocheront un seul homme, un seul brin d'herbe froidement brisé. La muse de l'histoire, encore aveugle et incertaine, accorde presque qu'il est dans le passé de grands crimes nécessaires et justifiables. Mais la conscience inviolable de l'humanité proteste contre sa propre erreur, en réprouvant du moins les crimes inutiles au succès des grandes causes. Les desseins cupides de l'impératrice furent merveilleusement secondés par ses mandataires, les agents ignobles qu'elle avait nommés curateurs des biens du Pandour et les magistrats prévaricateurs qui prononcèrent sur les droits de l'héritier. Chacun eut sa part à la curée. Marie-Thérèse crut se faire celle du lion. Mais ce fut en vain que, quelques années plus tard, elle envoya à la prison et aux galères les infidèles complices de cette grande dilapidation. Elle ne put rentrer complètement dans les bénéfices de l'affaire. Trinque fut ruiné et n'obtint jamais justice. Rien ne nous a mieux fait connaître le caractère de Marie-Thérèse que cette partie des mémoires de Trinque où il rend compte de ses entretiens avec elle à ce sujet. Sans s'écarter du respect envers la royauté, qui était alors une religion officielle pour les patriciens, il nous fait pressentir la sécheresse, l'hypocrisie et la cupidité de cette grande femme. Réunion de contraste, caractère sublime et mesquin, naïf et fourbe, comme toutes les belles âmes aux prises avec la corruption de la puissance absolue. Cette cause anti-humaine de tout mal, cet écueil inévitable contre lequel tous les nobles instincts sont fatalement entraînés à se briser. Résolue d'éconduire le plaignant, la souveraine daigna souvent le consoler, lui rendre l'espérance, lui promettre sa protection contre les juges infâmes qui le dépouillaient. Et à la fin, feignant d'avoir échoué dans la poursuite de la vérité et de ne plus rien comprendre au dédale de cet interminable procès, elle lui offrit, pour dédommagement, un chétif grade de major et la main d'une vieille dame laide, dévote et galante. Sur le refus de Trinque, la matrimoniomane impératrice lui déclara qu'il était fou, un présomptueux, qu'elle ne savait aucun moyen de satisfaire son ambition, et lui tourna le dos pour ne plus s'occuper de lui. Les raisons qu'on avait fait valoir pour confisquer la succession du Pandour avaient varié selon les personnes et les circonstances. Tel tribunal avait décidé que le Pandour, mort sous le poids d'une condamnation infamante, n'avait pas été apte à tester. Tel autre, que s'il y avait un testament valide, les droits de l'héritier, comme sujet prussien, ne l'étaient pas. Tel autre, enfin, que les dettes du défunt absorbaient au-delà de la succession, etc. On éleva incident sur incident. On vendit maintes fois la justice au réclamant, et on ne la lui fit jamais. Pour dépouiller et proscrire Albert, on n'eut pas besoin de tous ces artifices, et la spoliation s'opéra sans doute sans tant de façons. Il suffisait de le considérer comme mort et de lui interdire le droit de ressusciter mal à propos. Albert n'avait bien certainement rien réclamé. Nous savons seulement qu'à l'époque de son arrestation, la chanoinesse Wenceslawa venait de mourir à Prague, où elle était venue pour se faire traiter d'une ophtalmie aiguë. Albert, apprenant qu'elle était à l'extrémité, ne put résister à la voix de son cœur, qui lui criait d'aller fermer les yeux à sa chère parente. Il quitta Consuelo à la frontière d'Autriche et courut à Prague. C'était la première fois qu'il remettait le pied en Allemagne depuis l'année de son mariage. Il se flattait qu'une absence de 10 ans et certaines précautions d'ajustement l'empêcheraient d'être reconnu, et il approcha de sa tante sans beaucoup de mystère. Il voulait obtenir sa bénédiction et réparer, dans une dernière effusion d'amour et de douleur, l'abandon où il avait été forcé de la laisser. La chanoinesse, presque aveugle, fut seulement frappée du son de sa voix. Elle ne se rendit pas bien compte de ce qu'elle éprouvait, mais elle s'abandonna aux instincts de tendresse qui avaient survécu en elle, à la mémoire et à l'activité du raisonnement. Elle le pressa dans ses bras défaillants en l'appelant son Albert bien-aimé, son fils à jamais béni. Le vieux Hans était mort. Mais la baronne Amélie et une femme du Böhmerwald qui servait la chanoinesse et qui avait été autrefois garde-malade d'Albert lui-même s'étonnèrent et s'effrayèrent de la ressemblance de ce prétendu médecin avec le jeune comte. Il ne paraît pourtant pas qu'Amélie l'eût positivement reconnue. Nous ne voulons pas la croire complice des persécutions qui s'acharnèrent après lui. Nous ne savons pas quelles circonstances donnèrent l'éveil à cette nuée d'agents semi-magistrats, semi-mouchards, à l'aide desquels la cour de Vienne gouvernait les nations assujetties. ce qu'il y a de certain, c'est qu'à peine la chanoinesse eut-elle exhalé son dernier souffle dans les bras de son neveu, que celui-ci fut arrêté et interrogé sur sa condition et sur les intentions qu'il avait amenées au chevet de la moribonde. On voulut voir son diplôme de médecin. Il en avait un en règle. Mais on lui contesta son nom de Liverani, et certaines gens se rappelèrent l'avoir rencontré ailleurs, sous celui de trismégiste. On l'accusa d'avoir exercé la profession d'empirique et de magicien. Il fut impossible de prouver qu'il eût jamais reçu d'argent pour ses cures. On le confronta avec la baronne Amélie, et ce fut sa perte. Irrité et poussé à bout par les investigations auxquelles on le soumettait, las de se cacher et de se déguiser, il avoua brusquement à sa cousine, dans un tête-à-tête observé, qu'il était Albert de Rudolfstadt. Amélie le reconnut sans doute en ce moment, mais elle s'évanouit, terrifiée par un événement si bizarre. Dès lors, l'affaire prit une autre tournure. On voulut considérer Albert comme un imposteur. Mais, afin d'élever une de ces interminables contestations qui ruinent les deux parties, des fonctionnaires, du genre de ceux qui avaient dépouillé Tranck, s'acharnèrent à compromettre l'accusé, en lui faisant dire et soutenir qu'il était Albert de Rudolfstadt. Une longue enquête s'ensuivit. On invoqua le témoignage de Superville, qui, de bonne foi sans doute, se refusa à douter qu'il l'eût vu mourir à Reisenburg. On ordonna l'exhumation de son cadavre. On trouva dans sa tombe un squelette qu'il n'avait pas été difficile d'y placer la veille. On persuada à sa cousine qu'elle devait lutter contre un aventurier résolu à la dépouiller. Sans doute on ne leur permit plus de se voir. On étouffa les plaintes du captif et les ardentes réclamations de sa femme, sous les verrous et les tortures de la prison. Peut-être furent-ils malades et mourants dans des cachots séparés. Une fois l'affaire entamée, Albert ne pouvait plus réclamer pour son honneur et sa liberté qu'en proclamant la vérité. Il avait beau protester de sa renonciation à l'héritage et vouloir tester à l'heure même en faveur de sa cousine, on voulait prolonger et embrouiller le procès. Et on y réussit sans peine, soit que l'impératrice fût trompée, soit qu'on lui eût fait entendre que la confiscation de cette fortune n'était pas plus à dédaigner que celle du pandour. Pour y parvenir, on chercha querelle à Amélie elle-même. On revint sous main sur le scandale de son ancienne escapade. On observa son manque de dévotion et on la menaça, en secret, de la faire enfermer dans un couvent si elle n'abandonnait ses droits à une succession litigieuse. Elle dut le faire et se contenter de la succession de son père, qui se trouva fort réduite par les frais énormes qu'elle eut à payer pour un procès auquel on l'avait contrainte. Enfin, le château et les terres de Reisenburg furent confisqués au profit de l'État. Quand les avocats, les gérants, les juges et les rapporteurs eurent prélevé sur cette dépouille des hypothèques montant aux 2/3 de sa valeur. Tel est notre commentaire sur ce mystérieux procès qui dura 5 ou 6 ans, et à la suite duquel Albert fut chassé des États autrichiens comme un dangereux aliéné, par grâce spéciale de l'impératrice. À partir de cette époque, il est à peu près certain qu'une vie obscure et de plus en plus pauvre fut le partage des deux époux. Ils reprirent leurs plus jeunes enfants avec eux. Hind et le chanoine refusèrent tendrement de leur rendre les aînés qui faisaient leur éducation sous les yeux et aux frais de ses fidèles amis. Consuelo avait irrévocablement perdu la voix. Il paraît trop certain que la captivité, l'inaction et la douleur des maux qu'éprouvait sa compagne avaient de nouveau ébranlé la raison d'Albert. Il ne paraît cependant point que leur amour en fût devenu moins tendre, leur âme moins fière et leur conduite moins pure. Les invisibles avaient disparu sous la persécution. L'œuvre avait été ruinée, surtout par les charlatans qui avaient spéculé sur l'enthousiasme des idées nouvelles et l'amour du merveilleux. Persécuté de nouveau comme franc-maçon dans les pays d'intolérance et de despotisme, Albert dut se réfugier en France ou en Angleterre. Peut-être y continua-t-il sa propagande, mais ce dut être parmi le peuple, et ses travaux, s'ils portèrent leurs fruits, n'eurent aucun éclat. Ici, il y a une grande lacune à laquelle notre imagination ne peut suppléer. Mais un dernier document authentique et très détaillé nous fait retrouver, vers l'année 1774, le couple errant dans la forêt de Bohême. Nous allons transcrire ce document tel qu'il nous est parvenu. Ce sera pour nous le dernier mot sur Albert et Consuelo, car ensuite, de leur vie et de leur mort, nous ne savons absolument rien. Lettre de Filon à Ignace Joseph Martinovitz, professeur de physique à l'université de Lemberg. Emporté dans son tourbillon comme les satellites d'un astre roi, nous avons suivi Spartacus à travers les sentiers escarpés et sous les plus silencieux ombrages du Böhmerwald. Ô ami, que n'étiez-vous là? Vous eussiez oublié de ramasser des cailloux dans le lit argenté des torrents, d'interroger tour à tour les veines et les ossements de notre mystérieuse aïeule, Terra Parens. La parole ardente du maître nous donnait des ailes. Nous franchissions les ravins et les cimes sans compter nos pas, sans regarder à nos pieds les abîmes que nous dominions, sans chercher à l'horizon le gîte lointain où nous devions trouver le repos du soir. Jamais Spartacus ne nous avait paru plus grand et plus pénétré de la toute-puissante vérité. Les beautés de la nature agissent sur son imagination comme celles d'un grand poème, et à travers les éclairs de son enthousiasme, jamais son esprit d'analyse savante et de combinaison ingénieuse ne l'abandonne entièrement. Il explique le ciel et les astres, et la terre et les mers, avec la même clarté, le même ordre qui préside à ses dissertations sur le droit et les choses arides de ce monde. Mais comme son âme s'agrandit, quand, seul et libre avec ses disciples élus, sous l'azur des cieux constellés, ou en face de l'aube rougie des feux précurseurs du soleil, il franchit le temps et l'espace pour embrasser d'un coup d'œil la race humaine, dans son ensemble et dans ses détails, pour pénétrer le destin fragile des empires et l'avenir imposant des peuples. Vous l'avez entendu dans sa chair, ce jeune homme à la parole lucide. Que ne l'avez-vous vu et entendu sur la montagne, cet homme en qui la sagesse devance les années, et qui semble avoir vécu parmi les hommes depuis l'enfance du monde? Arrivés à la frontière, nous saluâmes la terre qui vit les exploits du grand Ziska, et nous nous inclinâmes encore plus bas devant les gouffres qui servirent de tombe aux martyrs de l'antique liberté nationale. Là, nous résolûmes de nous séparer, afin de diriger nos recherches et nos informations sur tous les points à la fois. Caton prit vers le nord-est, Cels vers le sud-est, Ajax suivit la direction transversale d'Occident en Orient, et le rendez-vous général fut à Pilsen. Spartacus me garda avec lui et résolut d'aller au hasard, comptant, disait-il, sur la fortune, sur une certaine inspiration secrète qui devait nous diriger. Je m'étonnais un peu de cet abandon du calcul et du raisonnement. Cela me semblait contraire à ses habitudes de méthode. « Filon, me dit-il quand nous fûmes seuls, je crois bien que les hommes comme nous sont ici-bas les ministres de la Providence. Mais penses-tu que, je la crois inerte et dédaigneuse, cette Providence maternelle par laquelle nous sentons, nous voulons et nous agissons? J'ai remarqué que tu étais plus favorisé d'elle que moi. Tes desseins réussissent presque toujours. En avant donc, je te suis, et j'ai foi en ta seconde vue, cette clarté mystérieuse qu'invoquaient naïvement nos ancêtres de l'illuminisme, les pieux fanatiques du passé. » Il semble vraiment que le maître ait prophétisé. Avant la fin du second jour, nous avions trouvé l'objet de nos recherches, et voici comment je fus l'instrument de la destinée. Nous étions parvenus à la lisière du bois, et le chemin se bifurquait devant nous. L'un s'enfonçait en fuyant vers les basses terres, l'autre côtoyait les flancs adoucis de la montagne. « Par où prendrons-nous ? » me dit Spartacus en s'asseyant sur un fragment de rocher. « Je vois par ici des champs cultivés, des prairies, de chétives cabanes. On nous a dit qu'il était pauvre. Il doit vivre avec les pauvres. Allons nous informer de lui auprès des humbles pasteurs de la vallée. » « Non, maître, lui répondis-je en lui montrant le chemin à mi-côte. Je vois sur ma droite des mamelons escarpés et les murailles croulantes d'un antique manoir. On nous a dit qu'il était poète. il doit aimer les ruines et la solitude.
Aussi bien, reprit Spartacus en souriant, je vois Vesper qui monte, blanc comme une perle, dans le ciel encore rose, au-dessus des ruines du vieux domaine. Nous sommes les bergers qui cherchent un prophète, et l'étoile miraculeuse marche devant nous.
Nous eûmes bientôt atteint les ruines. C'était une construction imposante, bâtie à diverses époques. Mais les vestiges du temps de l'empereur Charles gisaient à côté de ceux de la féodalité. Ce n'étaient pas les siècles, c'était la main des hommes qui avait présidé récemment à cette destruction. Il faisait encore grand jour quand nous gravîmes le revers d'un fossé desséché et quand nous pénétrâmes sous la herse rouillée et immobile. Le premier objet que nous rencontrâmes, assis sur les décombres à l'entrée du préau, fut un vieillard couvert de haillons bizarres et plus semblable à un homme du temps passé qu'à un contemporain. Sa barbe, couleur d'ivoire, jaunie, tombait sur sa poitrine, et sa tête chauve brillait comme la surface d'un lac aux derniers rayons du soleil. Spartacus tressaillit, et s'approchant de lui à la hâte, lui demanda le nom du château. Le vieillard parut ne pas nous entendre. Il fixa sur nous des yeux vitreux qui semblaient ne pas voir. Nous lui demandâmes son nom. Il ne nous répondit pas. Sa physionomie n'exprimait qu'une indifférence rêveuse. Cependant, ses traits socratiques n'annonçaient pas l'abrutissement de l'idiotisme. Il y avait dans sa laideur cette certaine beauté qui vient d'une âme pure et sereine. Spartacus lui mit une pièce d'argent dans la main. Il la porta très près de ses yeux et la laissa tomber sans paraître en comprendre l'usage. « Est-il possible, dis-je au maître, qu'un vieillard totalement privé de l'usage de ses sens et de sa raison soit ainsi abandonné, loin de toute habitation, au milieu des montagnes, sans un guide, sans un chien pour le conduire et mendier à sa place ?»« Emmenons-le et conduisons-le à un gîte, » répondit Spartacus. Mais comme nous nous mettions en devoir de le soulever, pour voir s'il pouvait se tenir sur ses jambes, il nous fit signe de ne pas le troubler en posant un doigt sur ses lèvres et en nous désignant de l'autre main le fond du préau. Nos regards se portèrent de ce côté. Nous n'y vîmes personne. Mais aussitôt, nos oreilles furent frappées des sons d'un violon, d'une force et d'une justesse extraordinaires. Jamais je n'ai entendu aucun maître donner à son archet une vibration si pénétrante et si large, et mettre dans un rapport si intime les cordes de l'âme et celles de l'instrument. Le chant était simple et sublime. Il ne ressemblait à rien de ce que j'ai entendu dans nos concerts et sur nos théâtres. Il portait dans le cœur une émotion pieuse et belliqueuse à la fois. Nous tombâmes, le maître et moi, dans une sorte de ravissement, et nous nous disions par nos regards qu'il y avait là quelque chose de grand et de mystérieux. Ceux du vieillard avaient repris une sorte d'éclat vague, comme celui de l'extase. Un sourire de béatitude entr'ouvrait ses lèvres flétries et montrait assez qu'il n'était ni sourd ni insensible. Tout rentra dans le silence après une courte et adorable mélodie. Et bientôt, nous vîmes sortir d'une chapelle située vis-à-vis de nous un homme d'un âge mûr dont l'extérieur nous remplit d'émotion et de respect. La beauté de son visage austère et les nobles proportions de sa taille contrastaient avec les membres difformes et les traits sauvages du vieillard, que Spartacus comparait à un faune converti et baptisé. Le joueur de violon marchait droit à nous, son instrument sous le bras et son archet passé dans sa ceinture de cuir. De larges pantalons d'une étoffe grossière, des sandales qui ressemblaient à des cothurnes antiques et une seide peau de mouton comme celle que portent nos paysans du Danube, lui donnaient l'apparence d'un pâtre ou d'un laboureur. Mais ses mains blanches et fines n'annonçaient pas un homme voué aux travaux de la terre. C'étaient les mains d'un artiste. De même que la propreté de son vêtement et la fierté de son regard semblaient protester contre sa misère, et n'en point vouloir subir les conséquences hideuses et dégradantes. Le maître fut frappé de l'aspect de cet homme. Il me serra la main, et je sentis le tremblement de la sienne. « C'est lui !» me dit-il. « J'ignorais qu'il fût musicien, mais je reconnais son visage pour l'avoir vu dans mes songes. » Le joueur de violon s'avança vers nous sans témoigner ni embarras ni surprise. Il nous rendit, avec une bienveillante dignité, le salut que nous lui adressions, et s'approchant du vieillard, « Allons, Zenko, lui dit-il, je m'en vais, appuie-toi sur ton ami. » Le vieillard fit un effort, le musicien le souleva dans ses bras, et se courbant sous lui comme pour lui servir de bâton, il guida ses pas chancelants en ralentissant sa marche d'après la sienne. Il y avait dans ce soin filial, dans cette patience d'un homme noble et beau, encore agile et vigoureux, qui se traînait sous le poids d'un vieillard en haillons, quelque chose de plus touchant, s'il est possible, que la solitude d'une jeune mère mesurant sa marche sur les premiers pas incertains de son enfant. Je vis les yeux du maître se remplir de larmes, et j'en fus ému aussi, en contemplant tour à tour notre Spartacus, cet homme de génie et d'avenir, et cet inconnu, en qui je pressentais la même grandeur enfouie dans les ténèbres du passé. Résolu à le suivre et à l'interroger, mais ne voulant pas le distraire du soin pieux qu'il remplissait, nous marchions derrière lui à une courte distance. Il se dirigeait vers la chapelle d'où il était sorti, et quand il y fut entré, il s'arrêta et parut contempler des tombes brisées que la ronce et la mousse avaient envahies. Le vieillard s'était agenouillé, et quand il se releva, son ami baisa une de ces tombes et se mit en devoir de s'éloigner avec lui. C'est alors seulement qu'il nous vit près de lui, et il parut éprouver quelque surprise, mais aucune méfiance ne se peignit dans son regard, à la fois brillant et placide comme celui d'un enfant. Cet homme paraissait pourtant avoir compté plus d'un demi-siècle, et ses épais cheveux gris, ondés autour de son mâle visage, faisaient ressortir l'éclat de ses grands yeux noirs. Sa bouche avait une expression indéfinissable de force et de simplicité. On eût dit qu'il avait deux âmes, une toute d'enthousiasme pour les choses célestes, une toute de bienveillance pour les hommes d'ici-bas. Nous cherchions un prétexte pour lui adresser la parole, lorsque, se mettant tout à coup en rapport d'idées avec nous, par une naïveté d'expansion extraordinaire, « Vous m'avez vu baiser ce marbre, nous dit-il, et ce vieillard s'est prosterné sur ses tombeaux. Ne prenez pas ceci pour des actes d'idolâtrie. On baise le vêtement d'un saint comme on porte sur son cœur le gage de l'amour et de l'amitié. La dépouille des morts n'est qu'un vêtement usé. Nous ne le foulons pas sous les pieds avec indifférence. Nous le gardons avec respect et nous nous en détachons avec regret. Oh, mon père, oh, mes parents bien-aimés, je sais que vous n'êtes pas ici, et ces inscriptions mentent quand elles disent « Ici reposent les Rudolfstadt. Les Rudolfstadt sont tous debout, tous vivants et agissant dans le monde selon la volonté de Dieu. Il n'y a sous ces marbres que des ossements, des formes où la vie s'est produite et qu'elle a abandonnées pour revêtir d'autres formes. Bénis soient les cendres des aïeux. Bénis soient l'herbe et le lierre qui les couronnent. Bénis la terre et la pierre qui les défendent. Mais bénis avant tout, soit le Dieu vivant qui dit aux morts « Levez-vous et rentrez dans mon âme féconde, où rien ne meurt, où tout se renouvelle et s'épure. » Liverani, usis catris megist, est-ce vous que je retrouve ici sur la tombe de vos ancêtres ? S'écria Spartacus, éclairé d'une certitude céleste. Ni Liverani, ni Trismégiste, ni même Jean Ziska, répondit l'inconnu. Des spectres ont assiégé ma jeunesse ignorante, mais la lumière divine les a absorbés, et le nom des aïeux s'est effacé de ma mémoire. Mon nom est homme, et je ne suis rien de plus que les autres hommes. Vos paroles sont profondes, mais elles indiquent de la méfiance, reprit le maître. Fiez-vous à ce signe, ne le reconnaissez-vous pas ? Et aussitôt Spartacus lui fit les signes maçonniques des hauts grades. « J'ai oublié ce langage, » répondit l'inconnu. « Je ne le méprise pas, mais il m'est devenu inutile. Frère, ne m'outrage pas en supposant que je me méfie de toi. Ton nom, à toi aussi, n'est-il pas homme ? Les hommes ne m'ont jamais fait de mal, ou s'ils m'en ont fait, je ne le sais plus. C'était donc un mal très borné, au prix du bien infini qu'ils peuvent se faire les uns aux autres, et dont je dois leur savoir gré d'avance. « Est-il possible ?» « Ô homme de bien !» s'écria Spartacus. « que tu ne comptes le temps pour rien dans ta notion et dans ton sentiment de la vie ? Le temps n'existe pas, et si les hommes méditaient davantage l'essence divine, ils ne compteraient pas plus que moi les siècles et les années. Qu'importe à celui qui participe de Dieu au point d'être éternel, à celui qui a toujours vécu et qui ne cessera jamais de vivre, un peu plus ou un peu moins de sable au fond de la clepsydre. La main qui retourne le sablier peut se hâter ou s'engourdir. Celle qui fournit le sable ne s'arrêtera pas. Tu veux dire que l'homme peut oublier de compter et de mesurer le temps, mais que la vie coule toujours abondante et féconde du sein de Dieu. Est-ce là ta pensée ? Tu m'as compris, jeune homme, mais j'ai une plus belle démonstration des grands mystères.
Des mystères ? Oui, je suis venu de bien loin pour t'interroger et m'instruire auprès de toi.
Écoute donc, dit l'inconnu en faisant asseoir sur une tombe le vieillard qui lui obéissait avec la confiance d'un petit enfant. Ce lieu-ci m'inspire particulièrement, et c'est ici qu'au dernier feu du soleil et aux premières blancheurs de la lune, je veux élever ton âme à la connaissance des plus sublimes vérités.
Nous palpitions de joie à l'idée d'avoir trouvé enfin, après 2 années de recherche et de perquisition, ce mage de notre religion, ce philosophe à la fois métaphysicien et organisateur, qui devait nous confier le fil d'Ariane et nous faire retrouver l'issue du labyrinthe des idées et des choses passées. Mais l'inconnu, saisissant son violon, se mit à en jouer avec verve. Son vigoureux archet faisait frémir les plantes comme le vent du soir et résonner les ruines comme la voix humaine. Son chant avait un caractère particulier d'enthousiasme religieux, de simplicité antique et de chaleur entraînante. Les motifs étaient d'une ampleur majestueuse dans leur brièveté énergique. Rien dans ces chants inconnus n'annonçait la langueur et la rêverie. C'était comme des hymnes guerriers, et il faisait passer devant nos yeux des armées triomphantes portant des bannières, des palmes et les signes mystérieux d'une religion nouvelle. Je voyais l'immensité des peuples réunis sous un même étendard. Aucun tumulte dans les rangs, une fièvre sans délire, un élan impétueux sans colère, l'activité humaine dans toute sa splendeur, la victoire dans toute sa clémence et la foi dans toute son expansion sublime.
« Cela est magnifique ! » m'écriai-je quand il eut joué avec feu 5 ou 6 de ces chants admirables. C'est le Te Deum de l'humanité rajeunie et réconciliée, remerciant le Dieu de toutes les religions, la lumière de tous les hommes.
Tu m'as compris, enfant, dit le musicien en essuyant la sueur et les larmes qui baignaient son visage.
Et tu vois que le temps n'a qu'une voix pour proclamer la vérité. Regarde ce vieillard. Il a compris aussi bien que toi. Et le voilà rajeuni de 30 années.
Nous regardâmes le vieillard auquel nous ne songions déjà plus. Il était debout, il marchait avec aisance et frappait la terre de son pied en mesure, comme s'il eût voulu s'élancer et bondir comme un jeune homme. La musique avait fait en lui un miracle. Il descendit avec nous la colline sans vouloir s'appuyer sur aucun de nous. Quand sa marche se ralentissait, le musicien lui disait «
Zenko, veux-tu que je te joue encore la marche de Procope le Grand ou la bénédiction du drapeau des Orébites ? »
Mais le vieillard lui faisait signe qu'il avait encore de la force, comme s'il eût craint d'abuser d'un remède céleste et d'user l'inspiration de son ami. Nous nous dirigions vers le hameau que nous avions laissé sur la droite au fond de la vallée lorsque nous avions pris le chemin des ruines. Chemin faisant, Spartacus interrogea l'inconnu.